Voilà nous rendre présents à ce bout d'univers qui nous a été confié. Ce bout d'univers souvent inconnu à nous-mêmes. Ce bout d'univers habité de pensées, de pulsions, de désirs paradoxaux, contraires, ambigus parfois. Dans cette matière carbonée, toute cette prolifération d'énergie, c'est là que siège plus profond, dans le fond de l'âme, ce lieu vierge. En reprenant la parole du prologue de Saint Jean, ce lieu du Verbe, ce lieu du Logos, qui est vie-lumière. Et cette lumière, aucune ténèbre ne peut la saisir. C'est-à-dire, cette lumière, aucune dimension psychologique ne peut la comprendre. Elle est au-delà de toute compréhension. On ne peut pas saisir ce lieu-là. Il est insaisissable. Il est le lieu du rendez-vous de l'être dans nos profondeurs. Mais en même temps, diront d'autres personnes, ce lieu est habité d'une lumière qu'aucune ténèbre ne pourra atteindre. Ce lieu est un lieu invincible, c'est un lieu inviolable. Une vie qu'aucune mort ne pourra toucher, une liberté qu'aucune chaîne ne pourra contraindre. Il y a en nous un lieu invincible, ce lieu de l'être qui reste quand tout s'est effondré. Qu'est-ce qui reste quand il ne reste plus rien? Il reste ce qu'on ne pourra jamais nous prendre. Je suis. Même si nous avons du mal à le sentir aujourd'hui, ce lieu-là, même si ça peut rester pour certains un concept encore extérieur, recevez cette parole. Sachez qu'il y a un lieu comme cela en nous. Là-bas, là-bas, dans les profondeurs, rentrer chez soi, là-bas, plus profond que tous les murs, plus profond que tout ce qu'on a pu opposer, génération après génération. Là-bas. Et c'est de là-bas que la présence nous appelle, qui vient frapper à la porte, à l'intérieur de nous-mêmes. Ouvre-moi la porte. Moi qui te parle de ce lieu plus intérieur que toi-même, en toi-même. Toi qui es encore à l'extérieur de toi-même. Je viens frapper à la porte de ton cœur. À travers un signe, un symptôme. Dans l'effondrement du mur. On pourrait en rester sans fin à la plainte. Penser que le mal jamais ne relâchera son étreinte. On pourrait aussi se contenter d'être sourd et passer son chemin. Quand la violence défigure l'humain et le prive de tout lendemain. Mais vivre requiert plus de hauteur, une réponse habillée de responsabilité. Vivre commence alors par une fine attention à ce qui tremble au-dedans, ce nom cousu à notre chair, qui fait la lumière là où nous n'y voyons pas clair. Quand l'impuissance nous prend devant l'hiver du monde, il reste la persévérance à opposer à la désespérance. Il reste la petite veilleuse à soigner au profond de l'être, celle qui porte la guérison dans ses rayons et fait soleil là où nous pétrifie encore le sommeil. André, tout à l'heure, André, hein, concernant la dimension anthropologique, c'est vrai que c'est peut-être un, même si je vais un petit peu dépasser le cadre de Maître Eckhart, hein, qui en fait a une vision, c'est un philosophe, Maître Eckhart, hein, donc il va beaucoup aussi s'appuyer sur Aristote, des approches de, je dirais, de l'être humain en lien avec la dimension aristotélicienne à travers ces images, la notion de l'âme. J'aimerais la place de l'esprit, hein, André, au niveau anthropologique. Justement, j'aimerais peut-être reprendre, si vous le voulez bien, une image que nous retrouvons beaucoup, c'est la tradition des anciens. Et là, je vais prendre plus en lien les pères de l'Église, et en particulier celui qui, dans les déserts, a formalisé ces modèles anthropologiques, beaucoup justement en s'appuyant sur les contemplations d'Origène, lui-même en lien avec les philosophes de l'époque, hein, en tout cas un petit peu avant, quelqu'un comme Évagre le Pontique. Évagre le Pontique est l'image de l'être humain. Donc, et cette image que j'ai un peu simplifiée, ou en tout cas essayé de, voilà, de vous rappeler, peut-être pour repréciser un petit peu, cette image de cette fleur d'humanité, que je vais grossir un petit peu, cette image donc de cette voilà l'être humain à travers cette image très simple d'une fleur. Là, je parle d'une humanité tournée, hein, vers le soleil, vers la source. Cette humanité à la fois qui est d'origine terrestre, hein, donc enracinée à la terre, et cette humanité qui est aussi d'origine céleste, ouverte au ciel. Hein, dans cette image, donc je crois très simple, hein, Je propose maintenant de nous rapprocher un petit peu de cette fleur et donc d'en découvrir les différents aspects, tels que les anciens, dans cette anthropologie grecque, qui est une des approches anthropologiques, qui nous dit ce qu'est le mystère de l'être humain. Il y aura d'autres anthropologies possibles, d'autres regards possibles, mais elle peut rejoindre, vous allez voir par moments, celle que nous expose Maître Eckhart. En fait, la dimension donc, telle que les anciens nous parlent du corps humain est dipartite, corps, âme, mais certains, au cœur de l'âme, vont différencier une troisième partie, qui est la fine pointe de l'âme. Donc certains auront une vision dichotomique de l'être humain, et d'autres, à travers une précision, auront une vision trinitaire, trichotomique de l'être humain. En tout cas, on va toujours retrouver la dimension du soma, somatique. Soma, en grec, c'est une dimension extérieure de l'être humain, dans tout ce qu'il peut porter, je dirais, de ce composé humain protéique, organique, extérieur. On pourrait dire que c'est ce qui reste dans le tombeau. C'est le corps cadavre. Un corps inhabité, ce corps, donc ce moule extérieur, le soma. Le soma, comme donc, d'ailleurs, va rimer avec le mot schéma en hébreu, en grec, pardon, qui est le tombeau, le tombeau de l'âme. Donc soma, schéma, donc le corps vécu parfois comme le tombeau. On va voir si c'est une approche un peu péjorative. En tout cas, c'est vraiment cette enveloppe protée. Et puis les anciens, cette attention à travers ces différentes couleurs, symbolise l'âme, qu'on définit comme la psyché, la psychologie, la psyché, comme étant en fait une structure. La psyché, c'est littéralement ce qui anime le corps. Et dans la tradition anthropologique des pères, des pères et des mères, enfin des anciens, il y a cette manière que l'âme, on pourrait dire un peu comme une pelure, comme des couches d'oignons, c'est ces pelures d'oignons qui vont se succéder. En fait, donc, on va décrire différents aspects de l'âme. La partie de l'âme qui est la plus proche du corps, qu'on appelle l'âme végétative, qui va donc, eh bien, c'est sa dimension vivante qui permet au métabolisme cellulaire, par exemple, de se faire. Donc c'est la dimension la plus physiologique qui intègre donc cette dimension au plus proche du corps, ce qu'on appelle donc l'âme végétative, qui est une dimension ou un registre donc de l'âme, de la psyché. Les anciens vont également décrire un peu plus profond que l'âme végétative, qui est aussi, alors l'âme végétative finalement, c'est ce qui permet qu'il y ait une croissance, qu'il y ait une génération. Cette âme végétative, on la partage aussi avec par exemple le végétal. Donc là on est vraiment dans cette notion, je dirais, de l'intégration du monde végétal, donc l'arbre qui pousse, qui croît, qui se reproduit, dans une espèce d'intelligence, qui pourrait rejoindre, on pourrait dire, l'âme végétative donc de notre corps humain. Et puis, on va rentrer un peu plus dans les profondeurs. Certains, dans l'âme, dans le psychisme, dans la psyché, vont définir toute une couche de l'âme qu'on appelle la partie animale, habitée de cette dimension désirante, dimension pulsionnelle, dimension de l'ardeur, de la colère, enfin différentes énergies très fortes qui nous habitent et qui sont légitimes, naturellement inscrites au cœur de notre humanité. Donc, je suis en train de définir ces différentes facultés, donc, que nous reverrons après, donc simplement d'abord décrire les organes. Donc, dimension désirante, dimension pulsionnelle, dimension désirante, donc dimension de l'ardeur. Et puis on continue encore une fois, comme ces pleurs d'oignons, un peu plus intimement encore, parmi l'âme, on continue à définir ce qui pourrait être, alors que là, c'est encore commun aux animaux. Là, avec la partie rationnelle, on entre à ce qui est plus spécifiquement humain, qui est en lien avec la partie de la raison, de la pensée, du jugement, de la mémoire, je dirais du discernement, la dimension un peu analytique. Donc vous sentez, ce sont autant de parties qui continuent à former, du point de vue de cette approche, l'âme, le psyché. Et puis, certains vont y voir également une dernière partie, qui est la partie la plus intime de l'âme, que certains continuent à appeler l'âme, Et dans ce cas-là, finalement, de plus intérieur, de plus silencieuse, de plus intime. Et c'est là où serait déposé, d'après ces anciens, tout ce qui a trait à la liberté, à la volonté, et tout ce qui a trait à l'image de Dieu. Je dirais le plus intime de l'être. Et dans cette dimension trinitaire que certains vont reconnaître, cette partie-là de l'âme est appelée en grec le nous. C'est l'esprit avec un petit e, qu'on pourrait encore d'ailleurs redécliner ce nous. Et le nous, diront certains, est en fait l'entre-deux entre ce qui est vraiment humain dans le contexte psychologique, psychophysique, psychologique et physiologique, et le nous est en lien avec ce que nous pourrions dire, ce que nous pourrions dire comme étant l'incréé divin, qui est l'Esprit Saint, le pneuma. Donc on arrive à une structure quaternaire de l'être humain, en intégrant le pneuma, la dimension somatique, la dimension de la psyché, hein, ce monde intérieur, à l'origine de tous ces mouvements de l'âme qui nous habitent, et puis la fine pointe de l'âme, ici, qui est en fait la partie qui serait la plus profonde, hein, la plus silencieuse, qui donne accès, qui est en fait la partie qui est l'interface avec ce que nous recevons de la présence de l'incréé. Et pour compléter ce schéma anthropologique, il faudrait rajouter ici, dans cette portion-là, ce qu'on appelle l'ange. L'ange. L'ange gardien, le compagnon de lumière, qui nous est donné à chacun et chacune, se situe ici. C'est celui qui fait l'interface entre l'Esprit Saint, le pneuma, les énergies incréées. Imaginez que ce soit ici l'extrémité d'un rayon de soleil, le soleil central, l'essence, les rayons du soleil qui descendent innerver la création, et chaque rayon du soleil vient nous rejoindre, chacun d'entre nous. Un rayon du soleil qui arrive là, et qui arrive pour venir innerver le composé humain, dont la fonction, vous le sentez bien, est d'ouvrir. D'ouvrir. L'être humain est créé pour cela. Est-ce que vous sentez un peu ce schéma tel qu'il est représenté là, hein? C'est un petit peu l'exemple, et là on resitue ainsi toutes les fonctions, et l'ange, sa fonction, la fonction de l'ange, hein, on parle du nous dans la tradition du Coran, la tradition musulmane, comme étant l'ange de l'âme. Donc l'ange, le messager, est celui qui permet de rendre accessible l'information venant du pneuma, pour le rendre accessible et diffusé, et le rendre connaissant au psychisme et dans le corps, hein, de plus en plus dense. Et donc, cette humanité, normalement ordonnée, nous sommes créés comme cela, a différentes facultés de connaissance, désirant, d'agressivité. Qu'est-ce qu'on appelle l'agressivité? Ce qu'on appelle en grec le thumos. Si vous voulez, c'est cette énergie qui nous habite et qui permet de protéger la relation de notre âme avec son Seigneur. Et tout ce qui pourrait entraver ou empêcher cette relation, retire-toi. Cette sainte colère, cette juste agressivité est là pour immuniser notre relation avec le Seigneur. Nous sommes créés pour connaître l'être, pour désirer le Seigneur, pour protéger la relation avec le Seigneur, pour être libre et pour offrir notre liberté à la grâce du Seigneur, non pas moi, mais toi, Seigneur. Viens faire ton œuvre en moi, pour faire mémoire, pour se souvenir du Seigneur, et du coup, pour que la mise en image que nous sommes invités à recevoir soit la mise en image de toutes les réalités célestes, hein, qui sont là et qui nous sont données. Et ceci à être au service, finalement, d'organes des sens qui vont donc progressivement être travaillés, ou en tout cas qui vont s'ouvrir pour recevoir la perception de cette réalité céleste. Et donc, ces grandes facultés, lorsque l'homme est bien orienté, toutes ces facultés sont tournées vers le Père. Eh bien, c'est ce que dit finalement Maître Eckhart. Vous sentez bien que Maître Eckhart, lui, ce qu'il nous propose comme chemin, c'est que
nous traversons toutes ces couches du monde extérieur pour gravir, c'est aussi une autre image, la montagne. Une montagne qui va nous inviter à traverser toutes ces couches, pleines de pulsions, pleines d'images, pleines d'émotions, pleines de pensées, pour que chemin faisant, ceci se raréfiant, nous rejoignions, eh bien, je dirais, le sommet de la montagne avec les neiges immaculées, où nous touchons à cette neige quelque chose de l'ordre de l'état immaculé. Eh bien, ce fond de l'être, ce fond de ce, je dirais, de l'âme, c'est quelque chose de l'ordre de cela. C'est encore des images tout ça, bien sûr, je suis désolé, mais on essaie de s'approcher, si vous voulez, de ce qui pourrait être le sommet de la montagne, si vous voulez, qui après nous ouvre à la vastitude de l'incréé divin. Eh bien, certains diront, hein, et c'est très étonnant parce qu'on retrouve cette image dans les dialogues avec l'ange, ce texte très étonnant, où à un moment donné, l'ange nous appelle et nous dit « Je vous appelle, j'appelle votre âme pour que vous fréquentiez le plus haut sommet de votre âme. Et où est-il ce plus haut sommet ? Dans les profondeurs de votre cœur. Le plus haut, le plus bas. » Vous sentez, les images bafouillent en termes de paradoxe pour nous dire que l'ange nous attend là, dans le profond de l'être. Il ne va pas forcément parler de l'ange, Maître Eckhart, donc je m'en éloigne un petit peu forcément de l'interprétation, mais c'est pour vous dire que notre chemin, c'est vraiment, si vous le voulez, de retrouver cela, de retrouver ce lieu ici, mystérieux, et cette orientation de cette fleur d'humanité, ce tournesol, tournesoleil, tel que les moines du Moathos nomment notre âme tournée vers le soleil. Le drame de l'humanité, la catastrophe originelle, c'est le moment où ce schéma anthropologique est dévoyé, puisque la relation se coupe avec le principe, et là, la fleur, tout, se tourne comme ça. Du coup, on n'a plus qu'une perception arrondie, psychophysique, où le centre de gravité de ma vie était l'être qui est ce qui est, dont je recevais la nourriture, la vie, etc. Là, maintenant, je m'auto-contente, cette espèce de dimension égocentrée, si vous voulez, hein, de notre humanité. Et là, toutes les fonctions ayant perdu l'origine vers le pneuma vont complètement se tourner, vont être complètement en dessous du souffle, on va dire, tout est chamboulé. Ces facultés finalement sont tournées à l'envers, et là c'est plus vert-père, c'est père-vert. Et la perversion, finalement, c'est la torsion de toutes ces facultés. Et nous sommes cette humanité pervertie, où toutes les fonctions sont totalement désorientées, troublées, tourmentées, et comment, chemin faisant, hein, c'est ce que va nous dire finalement Maître Eckhart à travers son chemin, on va être invité à refaire de la place, à réouvrir. Et pour réouvrir, parce que souvent, voilà, les uns comme les autres, nous sommes conduits au désert. La vie va nous conduire au désert. C'est là que le Seigneur nous appelle régulièrement pour nous fiancer toujours plus profondément. Et le désert, Middavar en hébreu, Middavar, Davar, Logos. Middavar, le désert en hébreu, c'est la matrice du Verbe. C'est la matrice du fils ou de la fille en devenir. Et nous sommes convoqués au désert lorsque dans notre vie, quelque chose auquel nous tenons tant, toute une terre auquel on s'était configuré dans une sagesse et une intelligence de nos repères, s'effondre. Tremblement de terre. Plus rien ne tient. C'est là où toutes les idées que nous avions, les images, l'interprétation, le désert, c'est la mise à nu, c'est la simplification. Au désert, nous savons bien, nous sommes tous passés au désert, et nous y passons encore, pour certains et certaines. Ce passage dans le désert, c'est revenir au rien. C'est faire l'expérience de ce à quoi nous tenions tant, ça ne tient pas. Tout s'effondre.
tous nos repères, on remet tout en question. Tout ce à quoi on a pu donner sa vie ou s'engager, tout s'effondre pour passer par cette nudité. Et je crois que c'est ça dans lequel, Maître Eckhart nous invite à aller sans arrêt, c'est quitter toutes ces images, tout ce à quoi on s'identifie, tout ce à quoi on est tellement configuré, pour que tout soit déléché. Quand il parlera de ce fond de l'âme, noble, enfin ce fond de l'âme, c'est vraiment ce fond, c'est pourquoi il faut qu'il y ait silence et tranquillité, qu'il n'y ait plus aucune image.
C'est dans ce lieu-là, du nous, au sommet de la montagne, dans les profondeurs du cœur, que toutes les images, toutes les représentations étant simplifiées ou étant, on va faire l'expérience dans la nudité de la rencontre avec ce Père, qui n'a de sens que d'engendrer son fils ou sa fille dans ce lieu immaculé au sommet de la montagne, dans ces neiges éternelles. Ce sont encore des images, je m'en excuse. Mais en vérité, c'est pour nous faire toucher, pour nous rejoindre là, dans ce lieu sans images où il n'y a plus rien à dire. Parce que dans cette montée, qui est en vérité lieu de purification de toutes nos pensées et de tous nos corps, mental, pulsionnel, émotionnel, mental, de toutes ces images, des représentations, tout s'effondre, et même notre perception de Dieu. Finalement, c'est quelque part, c'est le chemin de Job. Rappelez-vous Job, une des dernières paroles de sa vie, « Avant, Seigneur, le chemin et la montée, ou la descente, dans les grandes profondeurs, je te connaissais par où dire. » Je te connaissais. Cette espèce d'image. Et maintenant, je te connais, je te vois tel que tu es. Dans ce processus de dévoilement, de mise à nu de toute notre humanité. Et là, vraiment, chez Maître Eckhart, le thème du désert, c'est ce moment du délaissement, ce moment... Je crois qu'il n'y a pas... Alors, bien sûr qu'il y a à s'y préparer, mais... Et que, bien sûr, qu'il y a des logiques parfois d'achèse, ces logiques de situation de vie. Mais je dirais que la vie, aujourd'hui, chacun et chacune, nous met dans le désert. Chacun et chacune, regardons les expériences par lesquelles nous sommes passés régulièrement, ou récemment, plutôt récemment, ou encore que nous traversons. C'est immense. Le Seigneur nous crée et nous fait naître à nous-mêmes en nous visitant lors d'une inspiration. Et nous sommes habités de Dieu. Et nous sentons sa présence, la présence de l'être aimé. Mais Dieu nous crée aussi, ne l'oublions pas, en se retirant. Shabbat. Ce Shabbat tellement important qui fait qu'il arrive un moment... lorsque le temps de Dieu est là, qu'il se retire, et que là, il nous laisse. Ah, je ne sens plus rien. Je ne comprends plus rien. Où es-tu, ma lumière? Où es-tu, ma vie? Où es-tu? Où es-tu? Et c'est le moment, comme Marie-Madeleine le matin de Pâques, où elle ne sent plus rien, elle ne voit plus rien. Où l'avez-vous mis, sur ce corps de mon rabouni? Où l'avez-vous mis? C'est le moment où vraiment elle continue à persévérer. Cette belle parole de Francine Carillo, cette persévérance contre toute désespérance, cette persévérance, ce désir têtu, prendre soin de la petite veilleuse dans les profondeurs du cœur, qui nous fait avancer jour après jour, un pas de plus, en tâtonnant, en ne comprenant rien parfois, en chutant, en tombant, mais ne doutons pas. Cette grande loi de l'amour, vous vous rappelez, l'amour se retire pour que l'être aimé s'accomplisse. Il n'y aura pas d'accomplissement s'il n'y a pas ce retrait. Retrait de toutes les images, de toutes les sensations, où on ne sent plus. On ne sent plus l'autre, on ne sent plus rien. Nuit du désir, nuit de la sensation, nuit de l'amour, nuit, qui est en vérité le moment où dans cette absence présente, ou dans cette présence absente, l'amour nous travaille, nous pétrit,
nous invite vraiment à nous étreindre pour que nous perdions de plus en plus nos voiles qui nous coupent, qui nous séparent du réel. C'est tout ce travail où nous sommes pris régulièrement, chacun et chacune, dans ce cycle chemin faisant. Et donc c'est pourquoi, donc, dans la tradition écartienne, comment accomplir ce travail, donc rejeter dans l'essence, habiter dans le fond, c'est là que Dieu te touche, à travers ce schéma, bon, qui n'est qu'un schéma, et c'est tellement pas ça non plus, ce que Maître Eckhart nous dit, mais quelque chose qui peut être approchant, et donc il y ait silence et tranquillité. Et donc là, ce que nous dit simplement Maître Eckhart, avant qu'on arrive peut-être à quelques questions, c'est finalement, quelle est la posture de l'homme à ce moment-là? Que revient-il à l'être humain d'opérer par sa propre opération pour que cette naissance, que cet engendrement, que cet avènement du bonheur de l'être s'accomplisse? Comment faire? Est-ce qu'il faut produire quelque chose? Est-ce qu'il y a un effort à faire, un agir? Ou quelle est la nature de l'agir? Est-ce que c'est en produisant des pensées, en suscitant des images de Dieu, ou alors est-ce que c'est en se tenant dans le silence, le calme et le repos, qu'il laisse Dieu en lui parler et opérer? Eh bien, vous l'avez compris, ce que dit Maître Eckhart, c'est clair. Il dit, au fur et à mesure, qu'effectivement, il faut donc que l'homme s'échappe de tous ses sens, retourne toutes ses puissances vers l'intérieur, elles qui sont sans arrêt tournées vers l'extérieur, tournent vers l'intérieur, cette intériorité, vers l'intérieur et parviennent à l'oubli de toute chose et de lui-même. C'est de cela que parlait un maître, et là il signifie Saint Anselme de Canterbury, qui disait, en s'adressant à l'âme, « Retire-toi de l'agitation des œuvres du dehors, enfuis-toi et cache-toi du tourbillon des pensées du dedans, car elles rendent malheureux. » C'est vraiment une invitation à quelque chose, voilà, ce travail intérieur, ce travail d'observation, et donc cela doit être un retrait de toute chose. Il va vraiment développer cette idée que le Seigneur, il le dira, donc cela savent nécessairement qu'en ceci réside le meilleur et le plus noble, à quoi on puisse parvenir à cette vie, rester silencieux et laisser Dieu opérer et parler. Donc nous sommes bien dans ce qu'on appelle cette passivité, mais qui est en vérité un laisser-faire. Ce n'est pas sans nous, ça demande notre collaboration, et notre collaboration est en vérité l'œuvre de capitulation. Nous ne sommes pas objets de Dieu, nous sommes sujets. C'est avec lui que nous consentons à abandonner toute forme de maîtrise, de vouloir, et que nous choisissons par amour, et c'est véritablement un sujet qui parle en nous, de le laisser opérer ce qu'il a à opérer, que ce soit agréable ou désagréable d'un point de vue psychologique. Et que là, vous sentez bien, on entre dans ce qu'on appelle cet être non-deux, cette expérience de non-dualité, être un avec la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas sans moi. Vous sentez bien, c'est vraiment, je ne suis pas un pantin, je dirais, laissé à voilà, c'est ce que... C'est vraiment cette invitation à cette collaboration de l'être humain, désirant se laisser être sculpté par le bisou de Dieu. Le bisou. Le bisou de Dieu. Le bisou. Le bisou, pas le bisou. Non. Alors c'est aussi un bisou, mais enfin, c'est un bisou assez... C'est le bisou de Dieu. Alors ce baiser de Dieu, finalement, tu as raison, c'est l'échange de souffle à souffle. Mais c'est aussi, vous sentez bien, ce baiser qui est aussi une arme, un échec en hébreu. Nachak, le baiser, est formé des mêmes lettres hébraïques, mais Nechek, et c'est l'arme. C'est-à-dire, en fait, ce souffle, c'est aussi le travail de l'épée en nous. C'est le travail de construction. Et lécher le Seigneur, buriner avec ce biseau divin, hein, ce travail, c'est le travail du potier. Le travail du potier divin, et comment cette terre se laisse être modelée progressivement. Et de moins en moins en demandant à Dieu qu'il agisse ici, parce qu'elle croit que c'est par là qu'il faut le faire, et qu'en réalité, lui, c'est mieux comment faire, enfin, je ne sais pas comment dire, comme si à un moment donné, la terre se disait, non, c'est-à-dire, c'est pas par là qu'il faut faire, je préfère que ce soit par là, enfin bref, comme en fait, on essaie de magouiller un peu comment on va être sauvé, guéri, et en fait, voilà, c'est ça l'histoire, c'est qu'on veut toujours maîtriser un peu le contrôler. Je ne sais pas sans moi, mais c'est à un moment donné, vous sentez bien cette image, voilà, de le laisser être, d'un agir, abandonné, hein, et en même temps totalement présent à l'acte de guérison ou l'acte qui s'opère, hein, donc dans cette dimension de... Et donc pour Maître Eckhart, eh bien, il nous inviterait dans ce chemin à entrer, et pour lui c'est sans doute la connaissance qui est la plus ultime, dans ce qu'il va appeler la docte ignorance. Ça sera peut-être plus d'ailleurs développé par quelqu'un comme Nicolas de Cuès ou d'autres. Mais finalement, la plus grande connaissance, à un moment donné, c'est d'abandonner tout ce que nous avons peint, de consentir à abandonner tout ce à quoi on s'est identifié, même en termes de connaissance, en termes de savoir, en termes de... pour entrer dans ce qu'on appelle l'inconnaissance. Hein, ce grand thème, vous savez, de ces nuages d'inconnaissance. Hein, et il aurait des très belles paroles, donc dans différents sermons, dans ces différents sermons, peut-être 102, 103 ou 104, hein, que je retrouve cela à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit voilà, hein, il va dire à un moment donné, tu ne pourras jamais faire mieux que de t'établir totalement dans l'obscurité et dans l'ignorance. C'est étonnant ça, nous qui sommes créés pour connaître. On dit, quand même, qu'est-ce qu'il dit là, quand même, c'est pas juste, c'est pas possible. Hein. Ah Seigneur, s'il faut se dépouiller de tout, ne peut-il y avoir de retour? Non, sois-en certain, il ne peut y avoir de retour. Et il en rajoute, hein, Maître Eckhart. Mais qu'est-ce que c'est que cette obscurité? Comment l'appelle-t-on? Ou quel est son nom? Au revoir Claire, en plus. Alors là, c'est encore plus de l'obscurité. Claire, reviens, parce que là, il n'y a plus de clarté, du coup, quand tu parles. On entre dans l'obscurité maintenant. Vas-y. Alors, son nom n'est rien qu'une pure réceptivité. Ce qu'on appelle l'ignorance, hein, dans le langage de Maître Eckhart, c'est cette pure réceptivité qui, cependant, n'est ni dépourvue d'être, ni déficiente. Bien au contraire, ce n'est que dans cette pure réceptivité que tu dois être accompli. L'acte d'accomplissement est un acte justement de reconnaissance, hein, dans cette pure réceptivité. Et là donc, plus tu es désert de toi-même et ignorant de toute chose, plus tu t'approches de lui. Et de ce désert, il est écrit, je conduirai ma bien-aimée au désert et je lui parlerai au cœur. Hein, prophète Osée. La véritable parole de l'éternité n'est prononcée que dans l'unité lorsque l'homme s'est déserté lui-même et exilé de toute multiplicité. Vous savez, ce qui nous permet de quitter la multiplicité et d'entrer dans la simplicité, ça a pour nom l'épreuve. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais s'il y a bien un lieu où on est invité, je ne dis pas que l'épreuve reste ontologique dans le sens où elle est là aussi pour nous aider à grandir, mais que ce n'est vraiment, je crois, que, parce que là, sinon on peut beaucoup se targuer de paroles un peu extérieures, mais il me semble que dans la confrontation, l'altérité, la relation, la friction consciente dans le couple, dans la famille, dans la communauté, sont autant de lieux aussi où sont éprouvées justement toutes ces belles pensées que nous pouvons avoir sur Dieu. Parce que bon, j'aime Dieu, mais on peut complètement se la jouer. D'abord, aime ton frère, enfin, que t'as tellement du mal, enfin, c'est tellement compliqué, enfin, tout ça, vous savez bien. Mais l'épreuve est là, ce moment où justement tout s'effondre, hein, ce moment où nous sommes conduits au désert de soi-même. C'est vraiment dans ce travail hein, que nous rappelle, que nous invite à travailler Maître Eckhart. Et donc, simplement, pour conclure, hein, dans ce troisième aspect, hein, et je finirai avant peut-être qu'il y ait d'autres questions, c'est donc ce que nous dira Maître Eckhart dans son sermon 101, toujours, après où, hein, c'est-à-dire le lieu de la naissance dans l'âme, comment, c'est-à-dire comment l'être humain peut-il faire, donc on a dit que dans la perspective de Maître Eckhart, ce n'est pas en rajoutant des images et de la... C'est plutôt dans son approche à lui de faire la place. Faire la place pour rentrer dans ce silence, dans ce délaissement de toute forme de pensée, hein, donc être sans image. Hein, et le sens de tout cela, hein, donc dans cette montée, dans cette entrée, dans la docte ignorance, hein, dans cette obscurité qui est pure réceptivité, hein, nous dira Maître Eckhart, donc au sommet de la montagne, dans l'effacement, dans cette mise au désert, hein, et où là, il n'y a plus rien, on est conduit au rien, conduit à cet agenouillement intérieur, où là, eh bien, nous pouvons laisser l'être être l'être et énoncer sa parole, ce verbe, le Père engendrer son Fils, hein, ou sa fille intérieure, hein, donc dans les profondeurs. Et ce que nous dit donc Maître Eckhart, pourquoi tout cela? Le sens de tout cela? Eh bien, en quelques mots, à présent, observez le fruit de ces ténèbres et le profit de cette secrète parole. Dans ces ténèbres où il vient chez lui, le Fils, avec un grand F, du Père Céleste, n'est pas seul à être engendré. Toi aussi, tu y es engendré, enfant du même Père Céleste et de nul autre. Il t'en donne le pouvoir. Voyez comme en est grand le profit. De toutes les vérités que les maîtres ont pu ou pourront enseigner jusqu'au dernier jour, il n'en est aucune qui ait livré jamais le plus infime commencement de ce savoir et de ce fond. Bien qu'on appelle ignorance et inconnaissance, il recèle pourtant en son sein plus que tous les savoirs et toutes les connaissances extérieures, car cette ignorance te ravit et t'enlève à toute chose connaissable comme à toi-même. Et c'est à ce moment-là, c'est ce qu'exprimait le Christ par cette parole, celui qui ne se quitte pas lui-même et qui ne laisse pas père et mère et tout ce qui est extérieur, celui-là n'est pas digne de moi. Il veut dire par là, celui qui n'abandonne pas toute l'extériorité des créatures ne peut être accueilli ni engendré dans cette naissance divine, au contraire, te dépouiller de toi-même et de tout ce qui est extérieur, en vérité, c'est cela qui te donne cette naissance. Il est une chose que je crois et dont je suis sûr, celui qui se tiendrait droitement dans le dedans ne pourrait jamais, aussi peu que ce soit, être séparé de Dieu, jamais, en aucune manière. C'est-à-dire droitement dans le dedans, droitement dans le dedans. Et ce que nous entendons finalement, c'est ça qui est extrêmement précieux, c'est qu'en consentant à cette docte ignorance, en abandonnant toute force, vous sentez le drame de notre humanité. C'est qu'on croit qu'on est aimé, parce qu'on est plein de diplômes, plein de savoir, parce qu'on est très fort. On est aimé parce que. Et là, ce texte, il nous dit qu'en fait, on est engendré dans le lieu où justement, il n'y a plus rien. Là où on est le plus pauvre. Là où on ne sait pas faire. Là où quelque part, on se met en totale dépendance. Et là où quelque part, on consent à abandonner tout le contrôle qu'on pourrait avoir en créant des images, comme si à travers ces images, c'est nous qui allons faire venir Dieu de notre vie. Comme s'il nous fallait abandonner cette espèce de logique pléthorique pour que finalement, on entende que c'est là où on est pauvre qu'on va être rejoint. mais finalement, c'est quand même ce que nous voulons aussi avoir Dieu, finalement, parce que, n'est-ce pas, c'est incroyable, en tout cas, là, on va aussi s'approcher de ça à Noël, de voir cette plénitude de l'être qui est ce qui est, celui qui tient entre les mains, je dirais, la, celui que nul espace ne peut contenir, qui tient en main les logiques de la création de l'univers entier, qui vient s'échouer sur la paille et se faire pauvre, et se faire dépendant des soins d'une mère. C'est inouï. Ce qui ferait dire à Christian Bobin que ce Dieu dont il est question, que nous sommes invités à rejoindre ou à écouter, hein, c'est un Dieu pauvre, faible et nu, appauvri par son amour, affaibli par son amour, mis à nu par son amour. Et c'est là où, voilà, c'est là où je crois que pour nous, ça nous oblige à consentir à la vulnérabilité. C'est là où nous consentons à, voilà, à le laisser être dans cette humilité, dans cette dimension, consentir à le laisser à devenir rien, pour que vraiment, dans cette logique-là, eh bien, nous puissions, dans ce retrait, dans ce lieu-là où il y a, justement, où nous abandonnons toute l'extériorité, ce qui nous fait, tout ce à quoi on s'identifie, tous ces points d'appui pour lesquels nous existons, la vie va faire qu'à un moment donné, ces points d'appui extérieurs sur lesquels on trouve vont être retirés. Mauvaise nouvelle du jour. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure qu'on tous les appuis on va se découvrir quelque part appuyé de l'intérieur. Et le retrait des appuis se fait dans la logique de l'amour, parce que nous sommes prêts aussi à le vivre. Hein, que si les appuis se retirent, c'est parce qu'en vérité, ce qui est un appel de naître en nous est déjà là, est déjà prêt à devenir. Est-ce que vous sentez ça? C'est pour ça qu'un chemin thérapeutique, pour les thérapeutes parfois que nous sommes, qui voudraient trop vite enlever les béquilles alors qu'on n'a pas la maturité, on n'a pas la connaissance que ce qui va avoir à venir, enfin que, disons que le, si les béquilles se retirent, c'est parce qu'en fait ce qui a à venir pour supplanter les béquilles et à nous porter est déjà là. Et si on retire trop vite les béquilles extérieures, on risque de voir l'humanité s'effondrer parce qu'il n'y a pas en même temps ce processus. N'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille, la parole du cantique. Il y a un rythme et qu'il y a donc là une logique dans ce retrait, donc ces retraits d'appui qui vont faire que progressivement, eh bien, voilà, on va être invité à entrer et finalement de manière ultime. Je trouve ça intéressant, c'est que dans le sermon 104, Maître Eckhart nous dit finalement que la grâce de pourquoi ce chemin, eh bien c'est une manière pour lui de dire que cette naissance de Dieu dans le fond de l'âme, c'est l'entrée de chacun d'entre nous dans la vie trinitaire. Nous devenons fils ou filles, dans le Fils, dans le fond de notre âme, comme si là, au sommet de la montagne, le Père continuait à engendrer le Verbe, cette image trinitaire qui est là déposée en nous, cette image nous ronde, mais qu'au même moment où il continue à engendrer le Fils avec un grand S, en vérité, c'est chacun d'entre nous, en tant que fils ou fille, qui profitons de l'expérience et nous devenons nous-mêmes de plus en plus fils et filles du Père, dans la grâce de l'Esprit Saint. Est-ce que je suis clair en disant ça? Nous entrons vraiment dans l'expérience de la Trinité. Et je vous rappelle que d'un point de vue du christianisme, l'entrée dans la vie trinitaire, c'est l'entrée dans ce qu'on appelle la non-dualité. La non-dualité, d'un point de vue de l'Inde, hein, ou d'autres approches, rappelez-vous, c'est un petit peu cette perspective théologique, hein, donc cette dissolution de l'âme, souvent dans ce grand tout hein, de lumière. D'un point de vue du christianisme, la notion de personne hein, reste la vivante, et la non-dualité, c'est le Père, moi, et le Père, nous sommes un. Et nous entrons finalement dans la vie trinitaire. La Trinité, ce programme trinitaire, c'est vraiment l'enjeu de nos communautés, c'est l'enjeu de l'Église. L'Église comme lieu d'apprentissage de la vie trinitaire. Il y a toi, il y a moi, et entre toi et moi, il y a plus grand que toi et moi. Il y a celui qui veut naître. Et l'Église, c'est ce moment où nous rappelons que c'est parce que tu es toi et que tu manifestes cet être en toi que tu vas m'aider à faire naître en moi, je suis. Et que c'est les uns par les autres qu'on va faire naître le Seigneur. L'avènement du royaume de la présence, ce n'est pas uniquement « je suis », c'est « nous sommes ». C'est les uns par les autres, hein, dans cette fraternité. C'est ça le sens de l'Église, au-delà même de dimensions institutionnelles. Voilà, c'est vraiment ce corps qui nous permet d'accéder à cette dignité d'appartenance de fils et de filles du Père. Et Maître Eka donc termine par cette prière que je propose de recevoir. Afin que nous observions ici ce repos et ce silence tourné vers le dedans, de sorte que la parole éternelle soit en nous prononcée et comprise, et que nous devenions un avec elle, que le Père nous vienne en aide, et la parole elle-même, et l'esprit de ces deux. Amen. Amen. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà. Merci pour votre patience, pour votre écoute. Est-ce qu'il y a... Bon, il est moins 10, hein, donc le contrat est rempli au moins avec Père Bernard. Voilà, on a les REP en fait, je crois, à 5h30, donc on peut avoir 20-25 minutes s'il y a des questions, ou bien un petit temps de silence, enfin comme vous sentez, on peut avoir 20-25 minutes de partage ou de quelque chose d'un peu plus interactif, si vous le souhaitez, hein, il n'y a pas de... Oui.
J'ai envie de vous poser une question qui est presque une remarque. Quand vous avez parlé de cette rédimisation, je me suis demandé, parce que c'est dans ma vie actuellement, je connais une personne dans le coma et une personne autiste, et je me suis demandé si ce n'était pas finalement, parce qu'elle est consciente, un état de grâce qui leur permet d'arriver à cet état de non-pensée et d'être, de continuer à être dans.
Le coma et autiste, c'est ça, sont deux personnes différentes.
Et alors, mon autre question, j'aimerais que vous reveniez sur les preuves, parce que vous avez été un peu vite et je n'ai pas bien compris tout le bénéfice qu'il y avait du fait de l'épreuve.
Alors, le côté, d'abord, en lien avec le coma, je ne suis pas certain que l'être en coma soit totalement vide de pensée. Moi j'avais été très très touché par une onction des malades qui m'avait été demandée de fait auprès d'une personne très âgée, de 95 ans je crois, je me souviens, cette dame que je connaissais bien, une femme que j'apprécie beaucoup et qui en fait, bon, de manière accidentelle, s'est retrouvée donc, en coma et donc en train de mourir, et même je crois qu'elle était en... Voilà, elle est vraiment en état comateux pendant plusieurs jours, et donc des amis donc, m'ont demandé de faire cette onction des malades, hein. Il n'y a plus aucun réflexe, hein, donc en coma, et donc elle a reçu véritablement tout le rituel de l'onction, et à la fin du rituel, il y avait deux larmes qui ont coulé de ses yeux. C'est-à-dire que la personne comateuse, c'est vrai qu'il y a une dimension sans doute... c'est sûr qu'il y a une dimension d'une strate peut-être motrice ou consciente qui disparaît. Après, dans la notion du monde intérieur et de la notion du fonctionnement, je dirais, émotionnel, affectif ou même mental, je ne suis pas certain que ce soit complètement mis en virginité, je dirais. Mais par contre, je suis d'accord avec vous, il est clair que ce type d'expérience Alors, la dimension autistique, c'est encore peut-être encore autre chose, parce que là aussi, comment les rejoindre au-delà du mur, et peut-être qu'effectivement, la personne autistique est peut-être tellement enfermée en même temps qu'il est, voilà, il est vraisemblablement en contact avec cette intériorité hein, de l'aide, donc ce mur de l'autre côté, enfin cette traversée. Voilà, je souhaite vraiment qu'effectivement, ce soit pour ces âmes, véritablement, que l'état qu'ils vivent à ce moment-là soit des percées vers l'intériorité pour permettre le contact avec le grand espace de la conscience. Sans doute qu'ils doivent y toucher, mais je ne pense pas que ce soit automatique. Ouais. Et que peut-être que du coup, un accompagnement, par contre, de personnes conscientes autour hein, pourrait peut-être aider avec des prises de conscience. Je ne pense pas que ce soit forcément automatique. Le sens de l'épreuve, ben vous savez, c'est aussi littéralement ce que nous retrouvons en hébreu, c'est très intéressant, dans le mot sainteté, kadosh. Rappelez-vous kadosh, kedesha en hébreu. Littéralement, l'une des approches du mot sainteté en hébreu, kadosh, c'est dalet, couche, donc avec ses lettres hébraïques, hein, certains connaissent peut-être un petit peu ce nom des lettres hébraïques. La sainteté serait, dans une des approches interprétatives de l'hébreu, à travers ce mot sainteté, celui qui consent à passer par les portes de l'épreuve. Et l'épreuve, elle est là pour nous inviter, normalement, à révéler, dans une déchirure des voiles, ce qui appelle à advenir, cette présence autre, justement cette naissance à plus grand que soi. C'est pour ça que certains diront que l'épreuve est vraiment une expérience qui nous est proposée lorsqu'à travers une rencontre, une situation existentielle ou une friction douloureuse consciente, à travers cette rencontre avec ce qui fait obstacle, ça nous oblige, alors de deux choses l'une, soit on reste victime de l'épreuve et on n'entend pas ce que la leçon de l'épreuve aimerait nous signifier, et que c'est la faute de l'autre, cet état de victimisation perpétuelle qui fait que finalement l'épreuve reste totalement, enfin, elle est lieu de souffrance, mais de plainte, lieu de plainte, et ô combien elle peut l'être pendant longtemps pour chacun d'entre nous. Mais quelque part, c'est comme si on restait encore objet de la situation. Le sens de l'épreuve, c'est comment, au cœur même de ce qui me fait mal, je vais être invité, en plongeant dans les profondeurs, à découvrir que ce que je rencontre au cœur de l'épreuve est en vérité une énergie inaccomplie que j'ai à épouser et à retourner en lumière, au service de plus de conscience, de liberté, de joie et de paix, d'avènement du Seigneur. C'est pour ça que l'épreuve, hein, celui qui ne consent pas à passer les épreuves, qui refuse l'épreuve, eh bien, n'entre pas dans ce chemin de transformation de l'être. Hein, c'est pour ça que, hein, et là donc, hein, donc dans Notre Père, par exemple, hein, lorsqu'il est dit ne nous laisse pas entrer en tentation, certains diront ne nous laisse pas être terrassés par l'épreuve. Hein, certains diront dans cette traduction autre. C'est-à-dire, en fait, que l'épreuve ne soit pas le lieu où nous allons être submergés et emportés, justement, en ne prenant pas appui sur l'épreuve, pour en faire un chemin de croissance, aussi douloureux que ce soit. Hein? L'épreuve, pour certains, c'est vraiment le moment où nous rencontrons le Satan comme adversaire ontologique. Et qui va nous proposer la partie ombre de nous-mêmes que nous avons à rencontrer comme une peur, comme un désespoir, comme une violence, comme un doute, une dimension inaccomplie de nous-mêmes, dont nous ne savons pas être porteurs ou porteuses, va nous être révélée par l'épreuve. À charge à nous, parce qu'elle est vue et parce qu'elle est mise en lumière, de la travailler, de l'épouser, dans une étreinte, je dirais, avec ce qui nous fait mal, et vous savez combien chacun d'entre nous, ce que nous rencontrons là est terrifiant à ce moment-là, au cœur de l'épreuve. mais c'est vraiment le lieu de l'accomplissement, de la rencontre. À condition que nous redonnions bien au Seigneur sa juste place et que le sens de l'épreuve aussi, vous le savez, est de nous agenouiller et de nous faire faire l'expérience de la pauvreté, qu'à travers les expériences ou les repères ou les moyens dont je dispose, je me sens faible au cœur de ce que j'ai à rencontrer maintenant, mais me sachant faible au cœur de cela, je sais et je me souviens qu'il y a dans les profondeurs une dimension de force et d'éternité en devenir qui va m'aider à passer l'épreuve. Mais j'ai vraiment à ce moment-là à redonner à Dieu sa juste place. Et donc de ne pas être emporté par l'épreuve, c'est de dire, Seigneur, je n'y arrive pas, je suis pauvre, emporté, je suis face à quelque chose qui me terrifie, qui m'angoisse, qui me déprime, mais toi, avec toi, tout est possible. Donc, vous sentez, c'est vraiment le lieu du combat avec soi-même. Est-ce que c'est clair, hein? C'est bon, enfin, je le mets en mots, mais peut-être que certains pourraient le dire autrement, mais c'est vraiment cette... Voilà, on est en poussiéré, on est pris en main, et c'est vraiment un lieu, qu'elle soit anodine, il n'y a aucune épreuve anodine. C'est vraiment le moment béni, quelque part, difficile à accepter, bien sûr, lorsque nous le vivons, mais qui est un moment béni où, voilà, où même si on va jusqu'au bout, mes amis, là, c'est vrai qu'il faut y aller aussi doucement avec tous les mots qu'on partage aujourd'hui, mais ce qui pourra faire dire à ce témoignage étonnant d'un homme sidéen qui va mourir et qui dit à Marie de Henzel, hein, certains connaissent peut-être ce témoignage, « Je meurs guéri. Oui. Je meurs guéri. » D'un point de vue médical, c'est... On se dit, mais... En vérité, je meurs guéri. Pourquoi ? Parce que le corps ne peut pas suivre, mais de cette maladie, de ce qui m'est arrivé, j'en suis guéri, c'est-à-dire j'en ressors unifié. Mon âme est unie de cette maladie. J'ai pu en faire une occasion de conscience, une occasion d'accès à une vie plus haute, à une vie d'unité avec le principe. Et l'âme de cet homme, je dirais, aller rejoindre la maison du Père, enfin, comme on va dire, avec être goûté déjà à cette unité de l'âme avec le principe premier, en sachant que le corps, lui, bon, fait ce qu'il peut, et là, il ne peut plus continuer le corps, mais c'est ça l'histoire, enfin, vous voyez, c'est que du coup, tout peut devenir occasion de conscience à ce moment-là. Mais bon, hein, on sait bien, ça, c'est... Quelle traversée, quel chemin, voilà... Cette mise à nu, l'épreuve nous pulvérise, l'épreuve nous déchire les voiles, peau après peau, pour que nous soyons mis à nu, et mis à nu, nu, N-U, c'est devenir un, U-N, nu, un, mis à nu, c'est unifié, moi et le Père. Nous sommes un. Entrée dans la vie trinitaire. Éveil, réalisation. Enfin, même si je n'ai jamais installé, hein, c'est toujours en devenir, mais c'est cette expérience.
Ça va bien, Pierre, pour que j'ai nommé l'archétype de Marie. Ça me renvoie à Jung d'une certaine manière, mais c'est aussi ce que tu as amené, si j'ai bien compris, quand Maître Eckhart est dit d'aller là où il y a son image, par le repère...
Maître Eckhart ne parle pas effectivement de Marie, parce que comme tu as raison, Cécile, ça remet une image. Oui. Mais on pourrait pratiquement dire que Marie, oui. l'être marial en nous, oui. C'est ce lieu-là. Marie en nous, c'est ce lieu-là.
Oui, il n'en parle pas, mais je trouve que, bon, pour ce que j'ai compris de Jung, c'est quand même une de ses grandes découvertes, là, c'est l'archétype.
Alors, ce qu'on appelle l'archétype, mais... effectivement, qui est l'image structurante, oui, hein, qui habite de profondeur.
Et que, croyant ou pas, on aura l'archétype de Marie,
mais
la
tout à fait.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas naître sans être avec cela, c'est consubstantiel.
Même si après, on ne le nomme pas ou on ne passe pas par les images extérieures, d'accord ?
Oui.
Mais par contre...
Ce que je veux dire, c'est oui. que, pour avoir discuté assez longuement avec un psychothérapeute jungien, psychiatre, que je trouve intéressant, que j'essaie de chercher avec toi, le monde, je crois que les archétypes, on les découvre dans nos songes, pendant le rêve. C'est une période où on n'est pas dans le mental, on est dans le monde du symbole.
Tout à fait.
Alors, est-ce que le symbole est une image? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un bon psychothérapeute, quand on arrive avec certains, à l'hypnose aussi, elle est millienne. Il y a une différence entre le rêve et le songe. Du côté du songe, Dieu parle pour faire une page.
Absolument.
Nous, on pas.
Il y a, il y a pas.
Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'un bon thérapeute, mais toi aussi, on est invité à travers quelque chose qui se passe dans le songe, par des symboles, de dire, peut-être que là, c'est l'archétype de Marie pour faire mal. Parce qu'il faut le repérer, on est capable de Dieu.
On est capable.
Capable d'idée, que tout le
oui,
monde...
Oui, capable d'idée, tout à fait.
Je crois que Jung, enfin, je suis capable d'idée, Jung, il dit, moi, j'ai jamais rencontré Dieu. Maman, il a vécu lui-même une grande grosse dépression. Mais ce que je vois chez moi et chez tout le monde, croyant ou pas, c'est le divin. Alors il faut le définir. Et à travers les rêves et les songes que le patient ou la personne porte, il peut analyser elle-même, il y a l'archétype qui va dire, mais c'est le symbole. Mais le symbole, c'est ça se manifeste quand même par une mise en scène de quelque chose. Donc peut-être que Maître Eckhart, je ne sais pas, Jung a peut-être continué. C'est ce que je veux dire.
Oui, de toute façon, Maître Eckhart, il est aussi en lien avec ce que disait Origène, avec cette manière qu'il y a cette intériorisation, et puis que cette lecture biblique nous parle d'une histoire extérieure, mais qu'en vérité, si on veut l'entendre, la Bible, c'est l'histoire, un grand livre d'images qui vient nous ramener à nos... C'est une approche aussi que certains ont aujourd'hui, et qu'il faut tenir à la fois ensemble la dimension extérieure, parce que le danger aussi, parfois, aujourd'hui, c'est de nous dire, le Christ est un archétype, image structurante, mais du coup... A-t-il existé à l'extérieur? On en sait, et même on en doute. Mais ça ne certainement pas, il ne faut pas que ça s'oppose non plus. Il y a la dimension de l'histoire, mais simplement, effectivement, il est clair que ces images sont là, et certains diront que nous serons vraiment entiers s'ils seront éveillés en nous, lorsque seront éveillés en nous ces différentes images qui nous fondent. Alors le rêve et le songe aussi en font partie, expérience du lumineux, expérience d'éveil de la conscience qui vont nous faire rencontrer ces espaces intérieurs. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que sous la croix, par exemple, lorsque Jésus, rappelez-vous dans ce magnifique échange entre Marie et Jean, lorsqu'il s'apporte, il interpelle d'abord Marie, en ne nommant jamais maman d'ailleurs, voici femme, donc Isha, voici ton fils. Et lorsque Jean il dira, voici ta mère. Mais en vérité, le mot grec est derrière, lorsqu'il est dit que Jean prend chez lui Marie, c'est beaucoup plus que le prendre de manière extérieure. Il l'intègre à l'intérieur. Vraiment, il la rentre chez lui, on pourrait pratiquement dire comme cela. Il la fait sienne.
Voilà.
Et donc, c'est l'intégration de cette dimension. Et pourquoi Jésus n'appelle pas Marie mère? Pour nous sortir, pour sortir quelque part, pour éviter cette espèce de lien privilégié d'une mère à son fils, et pour nous rappeler que Marie, cette image mariale de la maternité ontologique intérieure, habite nos profondeurs. Et le Christ dira, finalement au bout du compte, vous êtes ma mère, chacun et chacune, à la mesure où vous me mettez au monde. Où vous mettez au monde, je suis. Où vous prenez soin de cette image, de cette imago Dei dépouillée dans vos profondeurs, vous êtes enceinte de Dieu. C'est la bonne nouvelle du jour. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il me dit là? Pourtant, j'y passe. Il me dit que je suis enceinte. Nous sommes enceintes. C'est une des manières, on l'a souvent dit, nous sommes enceintes. Quelque part, c'est vraiment ça, quand on prend Catherine Doherty lorsqu'elle en parle dans les Pustiniens, c'est vraiment ça. Nous sommes enceintes, hommes et femmes, que nous ayons des enfants extérieurs ou pas, nous sommes enceintes d'une image, d'une dimension, d'une semence capable d'éternité qui nous habite, et tout notre chemin d'humanité n'est pas seulement de mettre des enfants au monde à l'extérieur. Croissez, multipliez, première traduction, mais il vous est dit, croissez et accomplissez-vous. Et finalement, que nous soyons porteurs d'enfants extérieurs ou pas, notre chemin est de mettre au monde. Et là, nous rejoignons l'archétype de Marie, cette image, nous sommes profondément dans nos structures ontologiques des mères. C'est ce qui est déposé en nous.
Et d'ailleurs, les évêques sont en Marie sur leur cœur.
Tout à fait. Mais vous imaginez ce qu'il est en train de nous faire Dieu au passage quand même. Quelle confiance il a en nous. Il se dépose sous forme d'une image en chacun d'entre nous, de manière inaccomplie en chacun d'entre nous. Autrement dit, il se dépose en nous, et maintenant il est totalement dépendant de notre bonne volonté à ce que nous le prenions en main ou pas. Il peut rester quiescent dans notre monde intérieur, ou alors, si nous le prenons en main, eh bien chacun d'entre nous, on va participer à cette déification du monde et à la mise au monde de Dieu. Alors, mettre au monde Dieu, c'est-à-dire chacun d'entre nous, dans la mesure qui est la nôtre, de signifier « je suis ». Et ça, vous sentez que ce n'est pas uniquement réservé aux chrétiens. Ramana Maharshi l'a dit, El Halaj l'a dit, ce « je suis » c'est universel. C'est le destin de chaque être humain. Toute tradition confondue, couleur, peau. C'est cette universalité que le Christ, pour moi aujourd'hui, est venu inscrire en plénitude. Qui traverse toutes les grandes traditions. C'est vraiment cette expérience. Et nous, notre responsabilité, elle est là. C'est de laisser le Père engendrer le Fils en nous. Et à travers cet engendrement, c'est nous qui devenons fils et filles dans le Fils. Et dans cette émergence de cette dimension-là, alors, qu'est-ce que c'est quand même, intéressant quand même, qu'est-ce que c'est que le fruit de l'avènement du fils ou de la fille en nous, hein? Le maître Eckhart, il répond à un moment donné dans les questions, et vous allez voir, c'est très intéressant. Il dit cette chose intéressante, quelle est la présence, Seigneur, vous dites que tout doit concourir à cette naissance, que naisse en moi le fils. Mais, eh bien, pourrais-je avoir au moins un signe par lequel je puisse savoir que cette naissance s'est produite? Comment je sais que le fils est produit en moi? Comment le fils est né en moi? Voilà, le fils ou la fille. Oui, certainement. Des signes véritables, il y en a trois. Mais à présent, je vais vous en dire un. On me demande souvent si l'homme peut arriver à ce que le temps, ni la quantité, ni la matière ne lui fassent obstacle. Assurément, oui, quand cette naissance s'est produite, aucune créature ne peut plus alors te faire obstacle. Bien plus, toutes les créatures t'orientent alors vers Dieu et vers cette naissance, hein, comme nous en trouvons une comparaison avec la foudre. Bon, donc là, il y a tout un exemple qui va expliquer. En tout cas, ce que dit Maître Eckhart, ton visage est si complètement tourné vers cette naissance, quand tout ce que tu vois et tu entends, oui, en toute chose, quelle qu'elle soit, tu ne peux plus rien recevoir, rien d'autre que cette naissance. Toutes choses te deviennent Dieu même, car en toutes choses, tu ne vises et tu n'aimes rien d'autre que Dieu. Tout juste comme un homme qui regarderait longtemps le soleil dans le ciel, tout ce qu'il verrait ensuite, vous savez, quand on arrête le soleil, là, on est tellement aveuglé que le soleil se dessine dans toutes les réalités relatives. C'est parce qu'il te manque de chercher et d'avoir en vue Dieu dans toutes choses et de l'aimer en chacune d'elles que cette naissance te fait défaut. Là, je crois que celui qui a tout accompli, vous l'avez compris, c'est par exemple dans le Cantique des créatures, Saint François d'Assise. Parce que finalement, Saint François, comme le sens de l'histoire, c'est que désormais, quand il dit, Maître Eckhart, que la créature n'était plus obstacle, en fait, quand tu es visité par cette naissance, c'est la transfiguration. C'est qu'il y a cette émanation, comment on pourrait dire ça? Je dirais que Dieu naissant en nous, en tant que fils et fille, il y a comme une contagion de lumière et de conscience qui vient traverser toute notre humanité, et même nos yeux. Ce qui veut dire que dans mes yeux, c'est plus que mes yeux qui voient, c'est les yeux de la présence divine qui voient. Ça veut donc dire qu'en chacun d'entre vous, la créature n'est plus source de dispersion ou d'atomisation, elle est vue comme une grande lettre dans laquelle, en chacun d'entre vous, je vois Dieu. Frère soleil, sœur eau, toutes les réalités relatives deviennent des lieux d'épiphanie, de la manifestation de la présence. Hein, cette expression que j'aime bien, hein, que rappelle souvent Père Jean-Séraphin, dans le cœur, dans tout le monde des apparences, il y a l'apparition. L'apparition de l'être au cœur même de toutes les apparences, des réalités relatives. Voilà quel est le signe accompli que ce n'est plus moi simplement qui vois, c'est Dieu qui voit en moi à travers cette humanité. Dans mes mains, il y a plus que mes mains, il y a les mains de l'être. Dans mes yeux, il y a plus que mes yeux, il y a les yeux de l'être. Parfois, c'est étonnant à travers un regard, parfois, le regard d'un enfant, par exemple. Il y a plus qu'un regard d'enfant. C'est le regard de Dieu qui nous regarde. C'est Dieu qui nous regarde. Être regardé, être touché, être rejoint par l'au-delà de l'humain, ben ça, c'est le signe qu'effectivement, la naissance est accomplie. Vous voyez, c'est... Et on arrive à l'époque de la transfiguration. Le monde, au cœur du monde, il y a plus que le monde. Il y a le royaume qui est là. Au cœur de la finitude dans laquelle nous sommes tellement configurés, au cœur d'un monde défiguré, il y a déjà un monde transfiguré qui est là. Finalement, on se rend compte que ce qui manque, ce n'est pas la lumière qui manque. Ce qui manque, c'est nos yeux pour voir la lumière.
C'est
ça.
Non, elle voit Dieu en l'autre.
Et en même temps, ce rayonnement. Bien sûr. Il y a ce rayonnement qui fait que toutes choses sont vues. Mais vous sentez ce que dit Maître Eckhart ? La matière qui était tellement objet de dispersion, d'atomisation, de rapt, de séduction, d'exclusion, ça fut obstacle, la matière, quelle que soit la matière. Désormais, la matière n'est plus obstacle. Elle est lieu de manifestation du divin. Tout est possible. Et c'est vrai que tu as raison, du coup, l'être humain qui peut expérimenter cela rayonne d'une joie, d'une grâce, d'une paix, d'une liberté, du je suis.
Même à travers les épreuves.
Oui, même à travers les épreuves, tout à fait.
Il y a une phrase que tu as dit que je n'ai pas bien compris. Tu parles de Dieu en lui inaccompli tant que nous n'avons pas fait notre chemin.
Alors, l'image, je vais vous donner encore une autre image, mon excuse, mais c'est en vérité. Je vous le refais. Je ne mets absolument pas en pratique.
Mais comment faire bien ?
Non, simplement pour dire cette notion d'inaccomplissement, on le retrouve beaucoup dans cette approche hébraïque du livre de la Genèse. Lorsqu'il est question, donc là c'est une autre approche anthropologique, une description de l'être humain qui n'est plus abordée en tant que corps, âme, esprit, comme tout à l'heure je l'ai signifié, mais qui est, où là je repars du verset 1, du chapitre 1, verset 26 de la Genèse, « Il créa l'Adam à l'image, à la ressemblance », et verset 27, donc « Il les créa hommes et femmes, normalement, mâles et femelles, plus justement, hein, au niveau hébraïque ». En fait, simplement pour vous dire que quand je parle de cette notion d'inaccompli, là je touche vraiment à ce que peut être la notion hébraïque. En sachant que dans la tradition hébraïque, qu'on soit homme ou femme, nous sommes chacun mâle ou chacune mâle et femelle. Et qu'est-ce que c'est qu'être mâle? Sinon, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, zahar en hébreu, et fait référence aussi à une dimension de souvenir. Qu'est-ce que c'est qu'être mâle? Littéralement, c'est cette dimension de nous-mêmes qui va venir pénétrer un grand réservoir inaccompli, d'énergie inaccomplie qu'on appelle aujourd'hui l'inconscient, qu'on appelle femelle,
qui va épouser en nous ce qui est étranger et qui va permettre la mise en lumière. Autrement dit, être mâle, c'est tout ce qui touche à l'accompli, à la prise de conscience, à l'unification, à la dimension symbolique de la terre, de la mise en lumière, qu'on soit homme ou femme. C'est la dimension du connu, de ce qui a été accompli, épousé, avec cette sagesse, cette connaissance qu'on peut tous avoir à un moment donné suite à nos expériences humaines. On a une forme d'intelligence, de connaissance, de sagesse, c'est accompli, ça participe à de l'accomplissement. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est une épreuve, c'est comme si ce qu'on croyait avoir compris et qu'on avait compris ou qu'on avait intégré va être impuissant à rencontrer une épreuve que j'ai invité à rencontrer. Et là, être mâle, c'est se savoir faible et me souvenir qu'il y a en moi, et c'est ce que définit l'hébreu, c'est la dimension femelle, un grand réservoir d'énergie inaccomplie, qu'on appelle le grand inconscient. Jung, enfin en lien avec les grandes approches contemporaines aujourd'hui, c'est ce grand réservoir. Il y a en moi de l'inconscient, il y a en moi quelque chose que je ne comprends pas, que je ne connais pas, qu'on appelle en hébreu ténèbres, mais qui en vérité n'est pas le mal, c'est ce qui est inaccompli, qui n'est pas encore épousé, cette violence qui m'habite. Hein. Mais ce que j'ai également de dire, après que je le complète, c'est que dans cette dimension d'inaccomplissement, est déposée dans les profondeurs, alors c'est une image malheureusement, dont elle peut fixer de manière inajustée le propos, il faudrait voir beaucoup plus que ça, et même complètement différemment de ça, mais j'essaie de mettre en image un mystère qui nous habite. Il y a en nous un grain de blé, nous dit le texte hébreu, comme un grain de blé, comme une dimension, comme une image, comme une semence, comme une dimension de fils ou de fille intérieure. Et quand je parle de l'état inaccompli, c'est parce qu'effectivement, je vais prendre l'image très arboricole. Bon, je vais parler par exemple du chêne. Le fruit du chêne, c'est le gland. Lorsque je mets en terre le gland, c'est comme si en fait, c'était cette petite graine, cette semence, mais vous sentez déjà ce gland porte en potentialité le chêne en devenir. Il y a un programme qui est là. Donc quand je parle dans la présence de Dieu, de cette image de Dieu, c'est comme s'il y avait là en nous un projet, un dessein, une intentionnalité de Dieu qui est déposée là, comment je pourrais dire, l'émergence d'un arbre ou d'une vocation, d'une identité, comme une graine, comme un gland déposé en terre, qui déjà porte en lui le secret de l'arbre, comme cette petite image, toute potentielle, porte déjà, donc inaccomplie, et porte, je dirais, déjà le projet du développement en devenir. Comme si ce petit grain déposé là avait à devenir un arbre. Et c'est ce que nous sommes invités à devenir, un arbre. Donc quand je parle d'inaccompli, c'est cela. C'est qu'en fait, il y a en nous une dimension toute potentielle, une toute potentialité, mais qui est encore inaccomplie, qui appelle pour que ce soit accompli, à ce que l'être humain participe justement à cette naissance. Hein? Est-ce que je suis clair?
Oui, ça je comprends, mais c'est ça.
Hein? Et que donc finalement, une image, donc quand je parle de cette image où je pourrais dire que la semence est déposé en nous comme si c'était une dimension inaccomplie, hein, de ce Dieu inaccompli, c'est comme si effectivement, nous sommes là vraiment dans les profondeurs, habités d'une semence capable de Dieu, capable d'éternité, mais c'est encore inaccompli, et qu'on a donc à nous, progressivement, à l'accomplir. Et certains donc.
Mais ce n'est pas Dieu qui m'y est inaccompli, c'est moi, en moi-même, qui suis inaccompli dans mon chemin de dédication, non, c'est pas ça?
Oui, en même temps,
c'est pas Dieu. Dieu est accompli. Je ne parle pas de
oui.
Je suis à l'image et je dois aller à la route en plan.
C'est l'image d'une graine, c'est l'image d'une graine, d'une intentionnalité. Alors je ne sais pas comment quel mot serait utilisé. C'est une potentialité. Hein, effectivement. Et c'est pour ça que certains nommeront et accompagneront, décriront cette expérience anthropologique, donc hein, la femelle, donc dimension femelle qui est ce réservoir. Et on pourrait dire une image intéressante aujourd'hui, qui peut nous rejoindre, c'est cette image donc qu'on retrouve dans le modèle atomique, où finalement, On pourrait dire que le noyau, c'est cette image déposée en nous, quelque chose qui est une toute potentialité, comme l'image d'une graine qui est déposée là, et cette graine, elle va mourir en terre à la mesure où progressivement, on va être invité à prendre en main toute l'énergie électronique qui tourne, énergie sauvage, que sont vos énergies animales. Les énergies animales qui nous habitent, ces grands poissons des profondeurs, cette violence, ce désespoir, ces énergies, ces ombres à la fois transgénérationnelles, collectives, personnelles qui nous habitent, sont là dans ce réservoir. Je ne sais pas qui je suis vraiment. Et je le découvre à la mesure où, confronté à telle ou telle expérience, je me découvre tellement jaloux, tellement possessif, tellement désespéré, tellement violent, tellement avec une envie meurtrière, que je ne le connaissais pas et qui m'habite. Et il faut une expérience, là, pour le découvrir. Cette animalité qui est là, et tout notre chemin, c'est de découvrir cette animalité, la prendre en main, l'épouser, pour que progressivement, ce qui est là déposé en potentialité, cette graine devienne l'arbre.
Et que
ça s'accomplisse.
C'est le nom, on parle d'Anne, Isha.
Le nom, c'est celui-là. Isha, c'est l'épouse, en appel d'être épousée, et Ish, l'époux, le feu, la feu en hébreu. Esh, la feu.
Et c'est le ish, ce sous-devis en hébreu, qui a le nom de
c'est le mal, en réalité, c'est le mot Zahor, hein, Zahor, mal, hein, qui se souvient de la dimension femelle.
Que le nom est du côté femelle.
Il est clair que le nom que nous sommes, le mystère que nous sommes à nous-mêmes, est déposé dans la partie femelle de notre être, ce grand trou d'énergie, nous dit l'hébreu, où nous sommes invités à pénétrer. Et lorsque dans le deuxième récit de la Genèse, l'Adam est conduit dans une dimension extatique, endormi, tombe. Dieu fait, Yod et Valéloïd, fait tomber sur l'Adam un sommeil pour qu'il dorme. En vérité, ce mot hébreu, faire tomber un sommeil, c'est un acte d'ouverture. Et en fait, l'Adam, cette interprétation, découvre, un peu comme Jacob dans le songe, découvrant au sommet de l'échelle les anges qui montent et qui descendent, en fait, le programme du Je suis qu'il a à accomplir. C'est ça qu'il voit. Adam voit, quelle merveille il a déposée en moi. Mon épouse, cette épouse intérieure. Adam découvre l'autre côté de lui-même. Cette dimension inconsciente, cette dimension virevoltante de ces petits chevreaux énergétiques qu'il a rencontrés. Et il découvre cette semence d'éternité qu'il va donc avoir à prendre en main pour le faire croître. Ce fils ou cette fille de Dieu que nous sommes en devenir. C'est incroyable, hein. Vous ne trouvez pas, enfin moi je...
C'est ça.
Et c'est vrai que ce qui permet souvent de lâcher le mental, c'est le sommeil, justement, la mise en sommeil qui fait que les facultés féminines de l'être, les songes, les images, ça sort. Bon, il y a aussi des rêves éveillés, bon, c'est joli. Non. Rendons gloire à Dieu et bien rapport. Bonjour les lèvres, oui, tu l'as fait.
Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Car il est bon, mais il est bon. Commencement et maintenant et toujours.
Francine Carillo, vous avez reconnu son petit livre magnifique hein, que vous connaissez, c'est grâce à vous que j'ai trouvé d'ailleurs, l'imprononçable.
C'est
le pasteur Francine Carillo, ses petits poèmes, l'imprononçable.
Carillo, ça s'écrit comment?
Carillo, C-A-R-I-2-L-O.
Ah oui, et c'est que vous avez lu
avant. Les différents textes, les petits textes, les quatre.
Vous avez lu un texte au comment ça m'a vraiment frappé. L'imprononçable.
Ah, c'est ça, je voulais savoir. Oui,
l'imprononçable.